Béni soit le Seigneur, quelle grâce! Quelle grâce de nous retrouver sous le regard de Dieu pour partager sa divine parole. Nous allons lire le psaume 138, un psaume de David qui exprime son assurance. Est-ce que c'est bien d'avoir de l'assurance? C'est ce que Dieu veut. Dieu aime que nous ayons de l'assurance, non pas parce que nous sommes forts, mais parce que nous sommes confiants. Ça serait terrible d'avoir confiance dans ses propres forces. Ça n'irait pas bien loin d'ailleurs. Dans le psaume 138, c'est une phrase de ce verset qui nous intéresse ce soir, mais nous allons d'abord le lire en entier, s'il vous plaît. Psaume 138 de David. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple. Et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles, il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira à ma faveur. Éternel, ta bonté durera toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Amen. Et donc c'est le début du verset 8 qui nous intéresse. L'Éternel agira à ma faveur. Amen. Est-ce que vous aimeriez vivre dans cet état d'esprit de pouvoir dire devant Dieu, dans les moments de prière, d'avoir cette conviction profonde de faire la même prière, la même louange, l'Éternel agira à ma faveur. C'est pas beau de vivre, de terminer une année, d'en commencer une autre bientôt, avec cette assurance, cette certitude, cette conviction, l'Éternel agira à ma faveur. On connaît très bien le verset du psaume 37, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira ». On le connaît bien ce verset, il est très connu. Mais là, c'est beaucoup plus fort déjà. Il y a, c'est pas je vais me confier, je vais mettre en lui ma confiance, je vais recommander mon sort, donc il agira. Non, là, il y a une certitude, une conviction, une profonde assurance, l'Éternel agira. Alors c'est vrai que dans ce psaume, on voit que David était conscient, par exemple, de la présence du Seigneur. Vous avez vu au verset 2, le verset 1, pardon. Je chante tes louanges en présence de Dieu. Il est conscient de la présence de Dieu. Vous avez vu que souvent on commence nos réunions en le répétant. Parce que c'est important de faire prendre conscience aux gens que Jésus est présent. Vous avez vu souvent quand on fait chanter, quand on commence une réunion, n'oubliez pas ce que Jésus a dit. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce sont des promesses, c'est parce que ce n'est pas que des vérités, c'est des promesses qui nous permettent de réaliser la présence de Dieu. David va être amené à cette expérience de conviction profonde parce qu'il est conscient de la présence de Dieu. À partir du moment où on est conscient de la présence de Dieu, on peut avoir une foi vivante, parce que le problème, ce n'est pas tellement que Dieu soit présent. Le problème, c'est qu'il faut saisir sa grâce. Et on ne peut saisir sa grâce que si notre foi, elle est vivante. Vous vous rappelez la question que Jésus a posée, hein? Quand il parle de la fin des temps, il dit « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Après, il adresse une parabole, vous savez, d'un gars qui est dans le temple, il est en train de louer, de prier, d'expliquer aux autres, surtout aux autres qui donnent sa dîme, qui prient, etc. Et il est venu au temple pour rien. Pour rien, il est reparti, il n'est pas reparti justifié. Et pourtant, il était dans le temple. Eh bien, c'est vrai que la présence de Dieu, c'est une extraordinaire bénédiction, mais il faut quand même que notre foi soit vivante. Ma foi, est, cet après-midi on l'a chanté, ma foi est vivante dans un Dieu vivant. Au verset 6, il y a un autre élément aussi qui permet de comprendre pourquoi cet homme a autant d'assurance. Verset 6, l'Éternel est élevé, il voit les humbles. Voyez, voilà. N'oublions pas que si on obtient grâce, c'est parce qu'on est humble. Dieu fait grâce aux humbles. Est-ce que vous croyez que ce soir Dieu va vous bénir parce que vous avez fait des progrès toute la semaine, ou parce que vous avez donné plein d'argent à des gens qui en avaient besoin? Oh Seigneur, j'ai donné des sous cette semaine à telle association, j'ai donné ceci à telle autre, j'ai fait du bien à un voisin, j'ai offert des calendriers à un autre, j'ai envoyé de l'argent pour sauver les pingouins du Nord. Il y a des gens, mais oui, ils occupent l'argent, ils donnent de l'argent pour les associations. Alors, j'ai rien contre, mais enfin, je veux dire, bon, je pense qu'un chrétien, il a mieux à faire que de chercher à sauver les animaux. Je crois qu'il vaudrait mieux chercher à sauver les âmes. Enfin, bon, ça, c'est une parenthèse. Mais enfin, tout ça pour dire que Dieu ne bénit que les humbles. Seigneur, si ce soir je suis là, c'est un effet de ta grâce. L'Éternel agira à ma faveur. Est-ce que c'est votre désir? Bien sûr, vous aimeriez pouvoir régulièrement lire ce psaume et dire, mais Seigneur, je peux m'identifier à ce psaume, je sais que tu vas agir. Alors il y a un homme dans la Bible qui a été justement béni, on en parle régulièrement parce que Jésus l'a taxé d'avoir une grande foi. C'est dans l'évangile de Luc, vous connaissez cette affaire, c'est ce centenier, hein, ce centenier à qui Jésus a dit de lui, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. La foi, elle peut être donc plus ou moins grande. Vous êtes d'accord avec moi? Si Jésus a dit, même en Israël, on peut le lire le texte, hein, le verset 9, Luc 7, verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. C'est la première fois qu'on voit Jésus dans la Bible admirer quelqu'un avec la syrophénicienne. Ce qui prouve, vous voyez, qu'il y a des choses qui peuvent vraiment toucher le cœur du Seigneur. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Donc, même s'il est certain que ce qui est important au niveau de la foi, c'est la qualité et non pas la quantité, cette parole de Jésus nous montre quand même qu'on peut avoir une foi de plus ou moins grande. En tous les cas, ce texte nous prouve qu'on a une foi qui peut faire des progrès. Oui ou non? Et c'est certain. Et c'est ça que Dieu demande à l'homme, c'est d'avoir cette foi vivante. Mais voilà, la foi c'est la part de l'homme, donc c'est notre responsabilité. Ce soir vous êtes venu, pourquoi? Parce que vous aviez envie de venir écouter la parole de Dieu. C'est une façon d'exprimer votre foi et de dire, Seigneur, moi je veux faire des progrès, de nouvelles expériences. Et ce texte, on ne l'a pas lu, mais ce texte nous montre une chose, c'est que cet homme, il avait décidé d'aimer. Et je crois que la foi, elle s'exerce par rapport à l'amour qu'on a pour les autres aussi. On aime Dieu, on aime Dieu. Mais cet homme, il aimait son serviteur. Vous avez vu ce qui est dit au début? Le serviteur, verset 2, le centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Il était très attaché. La foi, elle s'exerce parce qu'on aime les autres. Vous en avez la preuve au travers de ce qu'on vient de lire. Voilà, parce que Jésus n'a pas admiré cet homme parce que juste il avait une confiance dans l'autorité du Seigneur. Non, la foi, elle doit s'exercer par amour. C'est par amour que Jésus-Christ est venu pour nous. C'est par amour qu'on doit faire les choses. Est-ce que vous aimeriez ce soir que des gens soient sauvés, hein? Vous aimeriez que beaucoup de gens soient sauvés? Voilà, ça c'est l'amour. On aime les gens, donc on veut qu'ils soient sauvés. Il lui était très attaché. Mais cet homme, il n'aimait pas que son serviteur, il aimait également la nation. Il aime notre nation. Vous l'avez vu avec moi ce verset, on ne l'avait pas lu. Hein, verset 5. Il aime notre nation. Est-ce que vous aimez votre nation? Tiens donc. Il y a des gens, ils n'aiment pas le pays où ils sont. Moi, j'ai entendu même des chrétiens dire, oui, la France, c'est un pays pourri. Moi, je souhaiterais que ces gens aillent pendant quelques mois dans d'autres pays vivre. Moi, j'ai entendu de ces aberrations, de la part des pécheurs, n'en parlons pas, mais quand on entend des chrétiens qui parlent de cette façon-là, moi, je trouve que c'est désolant et minable. Moi, je crois qu'un chrétien, il aime les gens qu'il côtoie, un chrétien, il aime le pays dans lequel Dieu l'a placé, il aime, c'était un Italien, hein? Eh bien, il aimait la nation. Est-ce que vous aimez la nation? Vous qui venez d'ailleurs, il y a des gens qui viennent d'Afrique, d'ailleurs, bon, même si les Antilles c'est français, il y a quand même un éloignement. Est-ce que vous aimez cette nation? Est-ce que vous priez pour Toulouse? Eh ouais. Ben, ça me touche quand je donne des fois des Africains qui sont là, qui font leurs études. Seigneur, bénis la ville de Toulouse, bénis cette nation, je peux faire mes études dans cette ville. Bénis. Vous voyez, C'est bon signe, ça. Et tout ça, c'est quand même écrit. Hein. Il aime, verset 5, il aime notre nation. C'est le témoignage qu'on rendait de lui. C'est important. Il avait construit la synagogue. Ça représente un homme qui aimait l'Église aujourd'hui. Est-ce que vous aimez l'Église? On entend des fois, moi, l'Église, je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin d'Église, moi. Je peux vivre ma vie spirituelle sans l'Église. Moi, je crois qu'on a besoin d'aimer la nation, d'aimer les gens, d'aimer l'Église. Est-ce que vous aimez l'Église? Et le pasteur de l'Église. Non, mais c'est important. Est-ce que vous aimez les frères, les sœurs? C'est révélateur, en tous les cas. C'est révélateur d'une foi qui est en bonne santé quand on décide d'aimer les gens, d'aimer le pays, d'aimer l'Église dans laquelle Dieu nous a placés. Une foi qui s'exprime est une foi qui s'exprime dans l'amour par rapport aux gens que l'on côtoie. Aimer l'assemblée des croyants. Moi, je me fais du souci quand j'attends quelqu'un qui me dit « Oh non, moi je ne viens plus à l'Église, moi les chrétiens, ça, je ne veux pas. » Je crois qu'on a besoin de venir à l'Église et d'aimer se retrouver avec les frères et sœurs. Jésus n'a-t-il pas dit que le monde connaîtra que nous sommes chrétiens à l'amour que nous avons? Les gens, à quoi ils reconnaîtront l'Église? À la théologie, les cathédrales, les églises, les bâtiments, les cérémonies, l'institution, le credo, les doctrines? Non, les gens du monde, ils reconnaîtront le témoignage de l'Église, c'est Jésus qui l'a dit, par rapport à l'amour que nous aurions les uns pour les autres. C'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc la voie de la foi, la grande foi, c'est la voie de l'amour. Jean 3,16 le dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et voyez, nous avons la preuve que cet homme était tourné vers Dieu parce qu'il aimait les gens, il aimait cette nation, il aimait la synagogue, il aimait les croyants. Puisqu'il leur avait bâti une synagogue. C'est bien la preuve qu'il aimait le peuple de Dieu. Comment vous voulez l'interpréter? Si un jour vous utilisiez votre fortune pour construire une église, qu'est-ce que ça voudrait dire? Que vous aimez le peuple de Dieu. Voilà. Eh bien cet homme, c'est ce qu'il avait fait. Et c'est révélateur. Cet homme, il avait un véritable amour. Et demandons à Dieu cet amour. Parce que rappelez-vous le thème de ma prédication, l'Éternel agira en ma faveur. Nous voulons que le Seigneur agisse dans notre faveur, eh bien, ayons cette foi qui aime les gens avec qui nous travaillons. Est-ce que les gens sont toujours aimables? Non. Il y a des gens, c'est pas facile d'aimer tout le monde. Non, il y a des gens, des fois, on travaille avec des gens, je ne sais pas vous, mais ça vous est déjà arrivé de travailler avec quelqu'un d'insupportable. C'est pas facile, hein? Eh bien, Seigneur, donne-moi de l'aimer. Et je suis certain que le Seigneur donnera sa grâce pour aimer des situations difficiles et pour faire de nouvelles expériences avec lui, car je crois que c'est important. Deuxièmement, la foi s'exerce dans l'humilité. C'était un homme de guerre, c'était un officier, mais il avait une attitude humble. Et vous savez, l'humilité, ça vous place dans la vérité. À tel point que, voyez, regardez comment les Juifs y parlaient. Les Juifs religieux disaient, oui, ils méritent. C'était des croyants. Il mérite que tu lui accordes cela. Cet homme, il te faut le bénir parce qu'il mérite. Mais lui, il disait l'inverse. Il disait, je ne suis pas digne. Donc lui, il disait exactement l'inverse de ce que les chrétiens disaient. Les chrétiens disaient, il mérite. Lui disait, non, je ne suis pas digne. Ça veut dire, je ne mérite pas. C'est à peu près la même chose. Vous vous rendez compte? Quel décalage. Ce qui prouve que la religion ne nous rend pas forcément objectifs. Et que cet homme, à cause de son cœur qui aimait, il avait de l'humilité et il était, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il était plus près de Dieu que ces gens qui étaient toujours à la synagogue? C'est une question qu'on peut se poser puisque Jésus se tourne, il leur dit écoutez, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Alors, je ne pense pas tordre les Écritures en expliquant que cet officier de l'armée romaine était plus près de Dieu que ces gens qui fréquentaient la synagogue et qui étaient tordus par rapport à leur façon de penser. Ils méritent. Et vous savez, quand on est dans la religion du mérite, je ne pense pas qu'on est dans l'humilité. Parce que l'humilité, c'est exactement l'inverse. Seigneur, fais-moi grâce ce soir parce que j'ai besoin de ta faveur dans ma vie. Est-ce qu'on réalise pourquoi Dieu a voulu que cette histoire, elle soit là dans la parole de Dieu? Ça nous prouve que l'humilité vous prédispose à une attitude de vérité. Vous comprenez ce que je veux dire? Puisque cet homme, il était vraiment plus dans le vrai que les religieux. Non, 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 je ne suis pas digne. Pourtant, il aurait pu dire à Jésus, il aurait pu dire au gars, écoute, va vers Jésus, parce que bon, moi, je suis un officier, je ne sais pas comment il va m'accueillir. Mais rappelle-lui à Jésus, entre autres, que c'est quand même moi qui ai foncé pour la synagogue. Hein. Rappelle-lui, on ne sait jamais, ça peut quand même influencer Jésus, je ne le connais pas bien, mais quand même, j'ai payé presque toute la synagogue. Hein. Pas le terrain, mais la synagogue. Est-ce qu'il n'y en a pas qui s'approche de Dieu comme ça? Tu vois ce que j'ai fait? Tu vois ce que j'ai donné? Tu te rends compte de l'argent que j'ai donné? Je me suis sacrifié? Ça ne vous met pas dans la vérité. Parce que quand même, cette histoire, moi, j'ai prêché plusieurs fois dessus, mais plus je prêche sur cette histoire, plus je me rends compte que l'amour et l'humilité vous permettent de comprendre la vérité. Pourquoi il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu, qui aiment la parole de Dieu? Pourquoi il y a des gens qui vont écouter le même message, il ne va y avoir rien? C'est vrai ou c'est pas vrai? La même prédication, il y a des gens qui vont être bouleversés, il y a des gens qui vont être saisis, oh, ça me touche, même s'ils sont repris, même s'ils sont confrontés à leurs péchés. Pourquoi? Eh bien parce que dans leur cœur, il y a de l'humilité. Seigneur, j'ai besoin que tu me parles, j'ai besoin que tu me reprennes. Et il est certain que moi, vous savez, la première fois que vous lisez, Dieu fait grâce aux humbles. Mais je comprends. Parce que l'humilité vous prédispose à aimer la vérité. Et cet homme, il était beaucoup plus près de Dieu. Et pourtant, vous voyez, c'était un homme qui avait appris à haïr l'ennemi, à faire la guerre, etc. etc. Alors que la tradition, si ça vous projette dans la religion, ça ne sert à rien. Quand quelqu'un dit « il mérite », on est dans la propre justice. Vous comprenez? Et ce n'est pas la volonté de Dieu, la propre justice. Ça, c'est loin de Dieu, la propre justice. La véritable bénédiction, c'est la justification par la foi. Voyez comment l'humilité améliore la foi. Et on pourrait dire, tiens, l'humilité c'est une chose, la foi c'en est une autre. Eh bien non, l'humilité prédispose à accepter, à comprendre la vérité et à dépendre de la grâce de Dieu. Vous vous rendez compte, quel bonheur, je dépends de la grâce de Dieu. J'ai fait des progrès, c'est bien, mais je n'ai pas fait des progrès. Je peux quand même compter sur la grâce du Seigneur. J'ai passé une mauvaise année, je me suis trompé, je me suis loupé, j'ai commis plein d'erreurs. Oh, comment ça va se passer? Eh bien, j'ai droit à la grâce de Dieu. Dimanche, je prêchais sur le verset de Hébreux 4, 16, quand il est dit « Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce pour obtenir la grâce ». C'est une invitation à avoir de l'assurance, mais pas de l'assurance parce qu'on a fait des progrès. De l'assurance parce qu'on sait qu'il va bien nous accueillir. C'est ça. Parce que s'il fallait avoir de l'assurance que chaque fois qu'on a fait des progrès, ça serait inquiétant, je veux dire. Mais on peut avoir de l'assurance, même si ça ne va pas de notre côté, parce que lui nous invite toujours. Est-ce que vous me suivez? C'est lui qui nous invite. C'est lui qui nous dit, mais approchez-vous, je veux vous bénir, je veux vous donner ma grâce. Ayez de l'assurance, parce que je suis un Dieu qui veut vous aider, malgré tout ce que vous avez pu faire. Cet officier, il était quand même sensible, parce qu'il n'a pas été influencé par les religieux. Rendez compte, c'était peut-être le seul chrétien, enfin le chrétien, il n'était pas encore sauvé cet homme, mais il n'a pas été influencé par la religion. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Moi, je comprends pourquoi Jésus a admiré cet homme. Il aurait pu être influencé, le temps qu'il a construit la synagogue, ça a peut-être pris des mois, des années. Il n'a pas été influencé. C'est pour vous dire combien cet homme a été béni par Dieu, malgré le fait qu'il n'était peut-être pas encore sauvé, malgré sa foi dans la puissance de Jésus. Il n'avait pas été influencé. C'est beau quand on n'est pas influencé par les mauvais. Non? Est-ce qu'on peut être influencé par des gens qui n'ont pas un bon témoignage? Par des religieux? C'est beau quand dans une église, les chrétiens, ils ont de la conviction. David, il n'a pas été influencé par tous les autres. Et pourtant, il a été méprisé quand il a été invité. Quand il n'a pas été invité, quand le prophète Samuel était venu à la maison, c'était quand même la personne la plus importante du pays, après avec le roi. Eh bien, quand il a été évité, vous croyez que ça l'a influencé? Non. Cet homme, il n'a pas été influencé. Moi, je suis sûr que quand on a décidé d'aimer les gens, la nation, les églises, comme elles sont, parce que c'est ce qu'on voit, quand on a décidé de rester dans l'humilité, de dire si j'ai quelque chose, c'est une grâce de Dieu, je suis persuadé que notre foi, elle ne peut qu'augmenter et qu'elle ne peut que nous amener, comme David, à dire « Le Seigneur agira à ma faveur ». Cet homme, qu'est-ce qu'il connaissait ? Hein ? Il avait, verset 3, il avait entendu parler de Jésus. Il n'a pas été influencé par les religieux, qui étaient dans la propre justice et dans la religion à fond. Il a été touché par ce qu'il avait entendu dire, certainement, tiens, que Jésus avait guéri. Peut-être qu'il avait appris la résurrection, je ne sais pas, de la fille de Jaïrus, vous voyez ? Il s'est dit, mais c'est quelque chose, ça c'est quelque chose. Il avait entendu parler de Jésus, une guérison, une délivrance. Peut-être qu'un de ses officiers, un de ses soldats lui a dit, tu sais pas, moi, l'autre jour j'étais là-bas à la caserne, j'ai entendu quelqu'un qui a parlé, tu sais, de ce gars qu'on parle de plus en plus. Eh bien, il a guéri un gars qui était délivré, possédé. Il avait entendu parler de Jésus. C'était tout. Je ne sais pas où vous en êtes, vous, avec Jésus. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Jésus ? Est-ce que vous avez entendu dire ce qu'il est capable de faire ? Est-ce que vous avez entendu que, à Gethsémané, il a sué des grumeaux de sang ? Cet après-midi, je pensais à ça. Et je n'avais jamais réfléchi que la nuit même, vous savez, il se chauffait auprès d'un feu. Quand Pierre a renié Jésus, il se chauffait auprès d'un feu parce qu'il faisait froid. Et pourtant, ça n'a pas empêché Jésus, cette nuit-là, alors qu'il faisait froid puisqu'il se réchauffait auprès d'un feu, de suer des grumeaux de sang. C'est pour vous dire que malgré le froid, comment Jésus a souffert. Vous avez entendu de ça ? Vous n'avez pas entendu dire que Jésus a répondu à un certain Pierre qu'il pouvait demander 12 légions d'anges ? Quand on voit dans les chroniques qu'un âge a décimé 185 000 Syriens à une nuit. Un ! Et je me demande si les 12 légions d'anges s'étaient mis à faire le travail, le boulot que ça aurait fait à Jérusalem. Un ange a décimé 185 000 Syriens. Et là, dans l'invisible, il y avait 12 légions d'anges. Heureusement que Jésus ne leur a pas donné le feu vert, parce que ça aurait bougé dans la ville de Jérusalem. Pourquoi ? Parce qu'il vous aime. Parce qu'il vous aime. Pourquoi il a accepté la couronne d'épines ? Pourquoi il a accepté les crachats, qu'on lui arrache la barbe, qu'on se moque de lui, qu'on lui cloue les miens, qu'on lui coule les pieds ? Pourquoi ? Parce qu'il vous aime. Vous avez entendu parler de Jésus ? C'est bien d'entendre parler qu'il a guéri un homme d'un cancer. C'est bien d'entendre parler qu'il a délivré un homme de sa possession. Mais quand même, on est à un autre niveau quand on entend ce qu'il a fait pour nous sur la voie de la croix. Vous comprenez ce que je veux dire ? Bon, guérir un homme, c'est bien. Mais je veux dire, ce n'est pas ça qui va le sauver. Quand on entend ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il a enduré pour nous, le prix qu'il a payé, le prix qu'il a payé pour nous sauver de l'enfer. Il a été abandonné du Père pendant quelque temps. Pourquoi ? Parce que Dieu ne pouvait pas accepter que le péché. Il a accepté tout cela. Le Romain, il avait entendu parler de miracles, de guérison, je ne sais pas moi, de délivrance. Mais nous, on a entendu beaucoup plus que ça. On a dans la Bible tout ce qu'il a fait pour que l'on puisse être béni. Alors, est-ce qu'on ne peut pas avoir une foi plus grande, nous, ce soir, que parce que Jésus a guéri un homme, parce que Jésus l'a délivré un autre ? Je crois qu'on peut avoir une foi beaucoup plus grande, rien qu'à cause de ce qu'il a fait pour nous sur le bois de la croix. Et cet homme, il a été attiré. Il a été attiré, et quand il a eu besoin, eh bien, il n'a pas pu faire autrement que de croire que si Jésus, avec un mot, pouvait délivrer quelqu'un, vous savez, c'est ça qui est extraordinaire avec Jésus. Un mot. Quand Pierre était dans la barque et que tout bougeait, si c'est toi, parce qu'ils ont cru que c'était un fantôme, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Bien. Un mot. Mais il aurait pu dire, bon, pour marcher sur la mer, alors attends, qu'est-ce qu'il dit, la méthode ? Voilà. Viens. Et Jésus, il a enjambé la barque. Il a marché sur la mer. Bon, c'est quand même, vous avouez que c'est quand même quelque chose. Puisque c'est Jésus qui a tout créé, un mot ce soir, et vous pouvez avoir cette assurance qu'il agira dans votre faveur. Mais moi aussi, puisque tu nous donnes des exemples, Seigneur, eh bien moi je vais le faire. Je vais me décider d'aimer mon prochain, d'aimer ma nation, d'aimer les gens que je côtoie dans mon église. Je vais me décider à, malgré peut-être tout ce qu'on m'a enseigné, peut-être on vous a enseigné à haïr les gens, eh bien moi ça ne fait rien. je vais me décider à être humble, je ne vais plus croire dans la religion, je ne veux aucune religion, je ne prêche pas de religion, on va croire dans la grâce de Dieu. Alléluia. Croire dans la grâce de Dieu. Et on va avancer. Seigneur, oui, dis un mot. Et Jésus, ben, je ne sais pas si c'est ça, quand il lui dit, dis un mot, parce que moi je suis officier, quand je dis à un soldat, va, il va, quand je dis à l'autre, viens, il vient, je dis à l'autre, fais cela, il fait cela, alors dis un mot, et mon serviteur, il avait compris que Dieu, Jésus n'était pas que bon. Parce qu'il guérissait, il avait compris que Jésus, il était le Tout-Puissant. Et c'est ça qui fait notre affaire à nous aussi. Vous voyez, qu'est-ce qu'il dit? Regardez, dans Matthieu chapitre 8, c'est la même histoire, mais Jésus va dire un mot. Il lui demande un mot. Eh bien, tu lui demandes un mot, mais tu vas le voir. Verset 9. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, je dis à l'un, va. Oui, il a compris l'autorité. Et il va, à l'autre, viens, et il vient, à mon serviteur, fais cela. Bon, là, il y a deux mots. Et il le fait. Regardez, verset 13. Jésus dit au centenier, qu'est-ce qu'il lui dit? Va. Il lui dit un mot. Il ajoute, qu'il te soit fait selon ta foi, mais ça c'est pour nous, en fin de compte. Il lui dit un mot, va, qu'il te soit fait selon ta foi, et il a, à l'heure même, le serviteur fut guéri. Moi je trouve qu'on peut dire amen. Pour conclure, on relit juste le verset qui nous intéresse dans le psaume 138, parce que je crois que ces deux histoires, on peut les mettre ensemble, d'accord? Cette assurance, que c'est beau de terminer l'année avec de l'assurance. Vous avez de l'assurance? Et franchement, ce n'est pas extraordinaire. J'aimerais ce soir que tous, on puisse sortir de ce lieu de culte dans quelques minutes et avoir cette même certitude, parce qu'il y a la base, on l'a vu, la présence de Dieu et l'humilité. Voilà, la part de Dieu est à 99%, mais l'humilité de l'homme déclenche, c'est un détonateur si vous voulez, c'est comme sur de la dynamite, il y a toute la poudre, tout ce que vous voudrez, mais il faut un petit détonateur. Et voilà, et notre détonateur à nous, c'est la foi. Psaume 138, verset 8, qu'il en soit ainsi, que ça soit votre bénédiction de ce soir, l'Éternel agira à ma faveur. Que le nom du Seigneur soit béni. Relisez peut-être ce psaume, reméditez cette histoire et regardez bien que si Dieu a fait pareil pour le centenier, il fera pareil pour vous, de faire une expérience de guérison, de délivrance, voilà, oui. Tu n'as pas besoin de mériter. Ne dites pas, oh, moi j'ai passé une si mauvaise année. Combien de temps il va me falloir pour retrouver la grâce? Le temps de la demander. Quelqu'un un jour me dit, mais combien de temps il faudra pour que je sois pardonné? Le temps que vous disiez pardon. C'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez? Est-ce que c'est biblique? Ah oui. Il n'y a pas besoin de se punir, de s'autoflageller. Le temps que vous le demandiez. Il a fallu qu'un homme, un des trois criminels sur la croix dise, souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton règne, le temps qu'ils le disent, il était pardonné. Je te le dis aujourd'hui, voilà. Il faut le temps de le demander. Il faut bien comprendre. C'est ça la grâce. C'est ça l'humilité. Je crois que quand je dis pardon, Dieu me pardonne. Je n'ai pas besoin de me punir pendant 3 semaines pour être sûr que Dieu va me pardonner. On ferme les yeux. Hein, on ferme les yeux quelques instants. Seigneur Jésus, comme ce centenier, nous croyons, oui, que quoi que ce soit que nous ayons pu faire ne nous permettra pas d'obtenir quoi que ce soit, mais tout ce que nous avons, c'est par grâce. Si ce soir, ton pardon encore coule du calvaire, c'est un effet de ta grâce. Si ce soir, tu guéris, tu libères, tu délivres, tu consoles, tu donnes ta paix, tout ça est un effet de ce que tu as accompli au calvaire. Seigneur, merci pour la couronne d'épines, merci pour les grumeaux de sang à Gethsémané. Merci pour le que tu as accepté d'être flagellé. Merci pour ces clous que tu as acceptés. Merci d'avoir empêché, c'est vrai, les anges de te défendre, Seigneur. Merci. Merci pour le prix que tu as payé pour que nous n'ayons rien à payer sinon à te dire merci pour le pardon. Merci pour la grâce, comme on l'a chanté, oui, qui coule encore du calvaire. Tu es assis sur le trône de la grâce. Tu nous demandes de nous approcher de ce trône de la grâce. Et je comprends pourquoi on peut s'approcher avec assurance. Parce que tu ne nous jugeras pas. Tu ne nous condamneras pas. Mais que tu libéreras. Oui, Seigneur, dis un mot sur les situations que nous traversons. Et nous croyons, Jésus, que tu agiras en notre faveur. Merci, Seigneur Jésus.